Merci pour votre accueil. En tout cas, c'est vrai que c'est un privilège pour moi d'être là. Et particulièrement en lien avec le sujet d'aujourd'hui, parce que quand je pense à cette église, il y a énormément de bons souvenirs qui viennent en moi. Parce qu'adolescente, je vous parle des années 90, là, je rendais régulièrement visite à la famille Bellefleur, au point où chaque fois que je venais, Inès et Simon disaient « Il y a Marie-Noël, on va à la piscine !» Donc j'étais identifiée à la piscine, alors je ne sais pas pourquoi, mais en tout cas on y allait quelques fois. Puis il y a eu les années chorales, avec la famille Jung notamment, et puis un camp aux sources aussi, que j'ai fait avec plusieurs personnes de cette église, et qui a été une grande source d'encouragement dans ma vie, et je crois que c'était vraiment le camp dont j'avais besoin à ce moment-là. Puis il y a eu après, par la suite, des contacts aussi au Binnenberg avec plusieurs d'entre vous. Et la première chose qui m'est venue à l'esprit quand j'ai réfléchi au fait que j'allais venir prêcher ici, c'était ce verset avec lequel Paul s'adresse aux Philippiens. « J'exprime à mon Dieu ma reconnaissance à chaque fois que je pense à vous. » Alors, on ne se connaît pas tous, mais en tout cas, c'est pour moi un immense honneur aussi d'être là. Et j'aimerais vous saluer aussi de la part de l'église Mennonite d'Alkirch, dont je fais partie. Et voilà, enfin, je crois que c'est important qu'on puisse continuer à tisser ces liens aussi entre nos églises. Alors j'espère que la prédication de ce matin sur ce thème qui est la famille, elle puisse nous aider à nous resituer dans le grand projet de Dieu, de pouvoir chacun trouver notre place au sein de ce projet. Si on fait un survol de la Bible, on peut commencer par le début. On n'a pas avancé très loin pour trouver la première famille, puisque dès que les humains apparaissent dans la Genèse, il y a une première famille. Adam et Ève, suivis de leurs enfants. Et Dieu donne sa bénédiction à cette famille en leur demandant de se multiplier et de remplir la terre. Alors Adam et Ève, c'est la famille parfaite, n'est-ce pas ? On n'a pas besoin de lire très longtemps pour se rendre compte que les familles de la Bible ne sont pas des bonnes familles chrétiennes. Bon, ça c'est un petit peu... C'est un petit peu tôt pour le dire, mais en tout cas, des familles qui rendent gloire à Dieu dès le début, on se dit « waouh !» Des sacrées familles. Il y a des familles imparfaites, tout au long de la Bible. Et la Bible, elle ne nous présente pas de familles parfaites. Les seules dont on sait assez de choses, on peut s'imaginer le niveau d'imperfection qu'il y avait. Alors certaines, on a juste quelques versets, et puis on peut y projeter ce qu'on a envie, mais je crois qu'il n'y a pas de famille parfaite dans la Bible. Il y a juste des familles imparfaites qui tentent de se mettre au service du Dieu vivant malgré leur imperfection. Et ça, c'est déjà une grâce incroyable, de voir que Dieu nous utilise, même si tout n'est pas au carré dans notre vie, pas encore. Caïn, qui déteste tellement son frère Abel, qu'il en vient à le tuer. Abraham et Sarah, avec leurs histoires de mensonges, de rivalité, de chouchou, de tromperie. Et d'ailleurs, on retrouve tous ces thèmes-là sur la génération suivante. Isaac, avec ses fils, Ésaü et Jacob, et l'histoire continue. Et ça me fait du bien de voir que Dieu utilise les familles imparfaites. Quand on parle du Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob, on s'identifie à un Dieu à qui des familles ont donné du fil à retordre, pas à des familles parfaites. Dieu utilise les familles imparfaites qui veulent se mettre à son service. Et pourtant, Dieu choisit de les utiliser, et pas seulement avant la chute, mais encore après, pour former un peuple, pour former son peuple. En Genèse 22, 17 à 18, voilà ce que Dieu dit à Abraham. « Je te bénirai. » Et je multiplierai ta postérité, comme les étoiles du ciel et comme le sable qui est au bord de la mer. Et ta postérité possédera la porte de ses ennemis. Toutes les nations de la terre seront bénies en ta postérité, parce que tu as obéi à ma voix. Dieu a un projet qui implique un peuple, et il utilise une structure humaine. Il utilise la famille pour former son peuple. En vue de quoi ? On a la réponse à la fin du verset. En vue de bénir les nations. c'est-à-dire pour le monde. Et cela est lié à l'obéissance qu'ils ont à la voix de Dieu. Cette promesse faite à Abraham de créer un peuple à partir de lui est présente jusque dans le Nouveau Testament, où Jésus en précise le sens. Est-ce que Jésus a continué dans cette lignée de patriarches ? Il en était issu, les évangiles nous disent qu'il est issu de la famille d'Abraham, mais il n'a pas eu d'enfant lui-même. On pourrait dire qu'il y a une sorte de rupture dans le flux de l'histoire. Il était issu du côté de sa mère, d'une lignée, mais il ne l'a pas perpétuée au sens biologique. Mais parfois je me demande, est-ce qu'on peut dire que Jésus n'a pas perpétué cette lignée quand 2000 ans après, on continue à en parler et on continue à s'identifier à sa famille. Éphésiens 3,14 nous dit que c'est de Dieu que toute famille sur terre tient son nom. Jésus, qui est Dieu sur terre, est venu nous inviter à une filiation renouvelée. Nous sommes les fils et les filles de Dieu. Jésus était célibataire, Paul l'était aussi. Et globalement, l'Église, jusqu'au XVIe siècle, donc ça veut dire pendant 1600 ans, considérait que pour être un vrai bon chrétien, on ne devait pas se marier. Pour être un vrai bon chrétien, il fallait rester célibataire et vierge, et se consacrer pleinement à Dieu, ce qui voulait dire, en tout cas pour la grande Église, d'entrer en tant que sœur ou en tant que moine dans les ordres. Et ça, ça a été le cas pendant 1600 ans. La famille, aujourd'hui, comme on la connaît, et l'importance qu'on lui donne, n'était pas du tout mise sur un piédestal comme elle l'est aujourd'hui. Le mariage était considéré comme un moindre mal pour les personnes qui ne pouvaient vraiment pas se passer de relations sexuelles, ou comme inutile, puisque le retour de Jésus était imminent, donc ça ne servait à rien de passer du temps à s'investir dans des relations qui n'avaient pas une portée éternelle. Lors de la réforme du XVIe siècle, les réformateurs ont rappelé avec force que le mariage était bon et voulu de Dieu. Mais peut-être, comme c'est souvent le cas, on a basculé trop fort dans l'autre sens aujourd'hui. Et peut-être qu'on a besoin de redécouvrir une juste place pour le célibat dans nos églises. Alors je fais là juste un aparté qui me semble important. On parle parfois du don du célibat. Je me souviens avoir prié avec des copines pour ne surtout pas l'avoir. On se dit, c'est pas possible, le cadeau empoisonné du Seigneur, c'était un petit peu comme ça qu'on le voyait. Et je me dis, mais Dieu, il fait pas de cadeau empoisonné. Et je crois qu'on ne doit pas fermer la porte à cet appel-là. Peut-être qu'il y a des gens ici qui sentent cet appel-là, et je crois que c'est pas un cadeau empoisonné. En fait, en discutant avec des personnes mariées et des personnes célibataires, on se rend compte que le célibat, comme le mariage, ça peut être un cadeau de bénédiction ou un cadeau empoisonné. Alors, au lieu d'attendre avec appréhension de savoir quel don on a, je crois que c'est bon de pouvoir se recentrer sur le présent et se dire, quel cadeau, quel don est-ce que j'ai reçu ce matin en me réveillant ? Je ne peux pas faire des plans sur la comète pour l'avenir. Je ne peux pas savoir dans 10 ans, dans 20 ans, où j'en serai et ce que je serai. Peut-être que demain, je serai à nouveau célibataire. Aujourd'hui, je suis mariée. Peut-être qu'aujourd'hui, je suis célibataire et peut-être que demain, je serai mariée. Quel est le don que j'ai reçu aujourd'hui de la part du Seigneur ? Dans quelle situation est-ce que je me suis réveillée aujourd'hui ? Voici le don que Dieu me donne. Dieu ne me demande pas de spéculer sur l'avenir. Il me demande d'être fidèle dans le présent, avec ce qu'il m'offre. Il a toute chose entre ses mains et nous demande d'avancer dans la confiance en lui. C'est la source d'une grande liberté de pouvoir considérer ça comme ça. Et peut-être qu'on peut découvrir que notre bonheur et que notre dignité n'est pas lié au fait d'être marié ou d'être célibataire, mais à la relation que nous pouvons avoir avec Dieu et avec l'Église. Et ça, c'est la seule chose qui aura une durée à travers toute notre vie. Alors même qu'il était célibataire, Jésus a valorisé le mariage, c'est vrai. Il l'a valorisé comme base de la famille. il l'a honoré. On peut penser à son premier miracle, aux noces de Cana, où il a changé l'eau en vin, et où c'était une manière vraiment de contribuer à la fête. On peut penser aussi à ses discussions avec ses disciples, au point où les disciples ont dit « Non, non, mais c'est pas du tout intéressant de se marier, en fait, si on ne peut pas se séparer. » Et il discutait de ses exigences pour le mariage, de la fidélité, du respect de l'alliance. Jésus avait une haute estime du mariage. Mais dans d'autres passages, Jésus remet aussi les liens familiaux en question. On peut lire dans Luc 8, 19, la mère et les frères de Jésus qui veulent lui parler, et ils ne parviennent pas à accéder à lui à cause de la foule. Et voici ce que Jésus leur répond. Ta mère et tes frères sont dehors, et ils désirent te voir. Mais Jésus répondit, « Ma mère et mes frères, ce sont ceux qui écoutent la parole de Dieu et qui la mettent en pratique. » Qui sont ceux qui écoutent la parole de Dieu et qui la mettent en pratique ? C'est le peuple de Dieu. Ceux qui écoutent sa voix. Vous vous souvenez du passage qu'on a lu dans Genèse ? On va le remettre, c'est le suivant. Je te bénirai et je multiplierai ta postérité, donc les paroles données à Abraham, comme les étoiles du ciel et comme le sable qui est sur le bord de la mer. Et ta postérité possédera la porte de ses ennemis. Toutes les nations de la terre seront bénies en ta postérité, parce que tu as obéi à ma voix. Jésus fait là un parallèle très clair de qui est son peuple, de qui est sa famille. Jésus considère qu'il y a une réalité supérieure à la famille spirituelle. L'Église. Ma mère et mes frères, ce sont ceux qui écoutent la parole de Dieu et la mettent en pratique. Cela ne veut pas dire qu'il faut négliger sa famille biologique. Je crois que ça serait injuste, complètement injuste de dire ça comme ça. Nos enfants ont besoin qu'on leur consacre du temps, de l'attention, mais il ne faut pas non plus que notre famille biologique prenne la place du peuple de Dieu, de l'Église. Quelqu'un me disait, je discutais cette semaine avec quelqu'un qui me dit « Oh, j'en ai marre, dans mon union d'église, tout ce qu'on fait, c'est gérer des noms de famille. » Alors, c'est comme ça chez nous, mais c'est pas du tout comme ça ici, hein, c'est pas... Mais c'est pour dire que peut-être que si notre mission, comme il le dit, alors je pense que c'est un peu abusif de le dire comme ça, mais peut-être que si notre seule préoccupation, c'est de gérer les noms de famille, alors peut-être qu'on a besoin de se rappeler quel est le véritable sens de l'église. Je crois que si on réduit l'Église à nos propres familles, alors on passe à côté d'une immense richesse. On passe à côté d'une immense richesse et en plus, on exclut les personnes qui n'en font pas partie. Dans le plan de Dieu, la famille est un socle important, mais elle est orientée vers le peuple de Dieu. Elle est élargie. Elle n'existe pas pour elle-même. Elle n'est pas repliée sur elle-même, mais elle est investie dans des relations à l'extérieur. Et elle laisse d'autres en faire partie. Ça veut dire que dans nos fêtes de famille, il y a besoin qu'il y ait de la place pour d'autres. Dans nos fêtes de Noël, dans nos mariages, il y a besoin d'ouvrir nos familles. J'ai trouvé ça super dans la voiture. Mon fils était en train de lister ses cousins garçons. Il voulait lister ses cousins garçons et il en a 4. Et puis, il incluait progressivement des cousins. Enfin, ce n'est pas des cousins biologiques, mais en tout cas, il les considère comme des cousins. Et il dit, lui aussi, je peux le compter. Hein. Je dis, bah oui, tu peux le compter. Et progressivement, il avait de plus en plus de cousins. Et je trouvais que c'était beau la manière dont il le faisait, de dire, oui, c'est certes, il y a ses cousins biologiques, mais il y a aussi ses cousins de l'Église. Il y a aussi les cousins qu'il a adoptés dans sa famille. On a parfois beaucoup à apprendre des enfants. Hein. Et parfois, une question de loyauté se pose quand on regarde à nos familles biologiques et à la famille qu'est l'Église. Est-ce qu'il faut faire corps avec sa famille ou est-ce qu'il faut suivre le Christ ? La loyauté à Jésus a parfois le coût de devoir accepter d'obéir à Jésus, quitte à créer une division dans la famille. Notre première allégeance en tant que chrétien est à Christ. Ensuite, elle est à notre famille. Jésus a eu ces paroles mystérieuses, on va les lire ensemble, c'est dans Matthieu 10, 34. « Ne croyez pas que je suis venu apporter la paix sur terre. Ma mission n'est pas d'apporter la paix, mais l'épée. Oui, je suis venue opposer le fils à son père, la fille à sa mère, la belle-fille à sa belle-mère. On aura pour ennemis les membres de sa propre famille. Des paroles difficiles à comprendre, surtout pour quelqu'un qui est venu en tant que le prince de paix, qui est venu apporter la paix. Mais je crois que ça pose vraiment cette question d'allégeance. Si nos familles n'honorent pas Dieu, nous devons tout de même rester fidèles. Pour résumer, Jésus insiste sur l'importance de la famille, mais en même temps, elles ne doivent pas devenir des idoles, des unités pour lesquelles nous sommes prêts à tout sacrifier, y compris ce que Jésus nous demande. Dans le contexte qui est celui de Jésus, on aurait plutôt tendance à en faire trop par loyauté envers sa famille qu'à en faire pas assez. Et pourtant, même au sein de cette réalité, Jésus souligne cela. Les familles qui suivent le Christ sont appelées à exister au-delà d'elles-mêmes, ouvertes aux étrangers, ouvertes aux personnes rejetées, ouvertes aux personnes seules. Un des moments forts dans lequel cela s'exprime est quand Jésus est déjà cloué sur la croix. Il regarde sa mère et le disciple qu'il aimait, dont on suppose que c'était Jean, et réalise qu'ils vont être tous deux abandonnés de lui et qu'ils vont traverser quelque chose de très difficile. On va lire ensemble dans Jean 19, 25 à 27. Près de la croix de Jésus se tenait sa mère, la sœur de sa mère, Marie, femme de Clopas et Marie de Magdala. En voyant sa mère et à côté d'elle le disciple qu'il aimait, Jésus dit à sa mère, « Voici ton fils. » Puis il dit au disciple, « Voici ta mère. » À partir de ce moment-là, le disciple l'a pris chez lui. Pour Jésus, la maternité et la paternité ne sont pas seulement biologiques. D'ailleurs, il en sait quelque chose lui-même, puisqu'il est lui-même avec un père adoptif. Peut-être qu'on a eu des enfants nous-mêmes, peut-être pas. Mais que nous soyons célibataires ou mariés, que nous soyons parents ou non, veufs ou veuves, ou que comme Marie nous ayons perdu nos enfants, Dieu nous appelle à vivre l'Église de telle sorte que nous ayons tous une famille. Et ça, c'est une sacrée richesse. Nous pouvons être des pères, des mères, les uns pour les autres. Nous pouvons être des frères et des sœurs les uns pour les autres. Avec ma famille, on a fait le choix de vivre en habitat groupé, avec deux autres familles. Parce qu'on est convaincu qu'il faut un village pour élever un enfant, et qu'en nous-mêmes, on n'a pas les ressources qu'il nous faut. Quand les enfants étaient petits, ils discutaient entre eux, alors on tendait l'oreille. Ils disaient, bon, si maman et papa meurent, on pourrait toujours habiter chez les Sommer ou chez les Leutold. Ah, et si Michel et Ruth et Luc, Alexis et Nadia et papa, maman meurent, bon, c'est un peu glauque votre conversation, ben, Johanna et Nathan, donc ça c'était les enfants de Michel et Ruth, qui étaient adolescents à l'époque, ils pourront peut-être aussi s'occuper de nous. Et je me dis, mais quelle richesse que nos sécurités, elles ne soient pas uniquement dans nos familles biologiques, mais qu'elles soient plus larges et qu'elles impliquent d'autres personnes. Cette sécurité et cette amplitude relationnelle implique d'apprendre à dépendre les uns des autres, à chercher à être en lien, à construire des relations. Si l'Église, c'est juste un amas d'individualités qui viennent louer le même Seigneur, ou bien un amas de familles biologiques, alors nous nous privons de l'essence même de ce que Jésus voulait pour l'Église. Si la vie fait que nos enfants grandissent sans papa ou sans maman, qui tiennent la route, peut-être, est-ce qu'ils trouveront des personnes chrétiennes, affermies, sur lesquelles ils pourront compter dans la durée et qui passeront du temps avec eux? Si nos adolescents sont en crise, auront-ils des contacts suffisants avec d'autres adultes pour pouvoir se laisser adopter un temps par d'autres, pour ensuite mieux revenir quand ils auront fait le tri en eux? Est-ce que nous pouvons compter sur un frère ou une sœur en Christ quand nous avons besoin de parler, d'exprimer nos doutes, d'être soutenus ou encouragés? Est-ce que nous avons devant nous des modèles ? Pas des modèles parfaits, mais des modèles qui témoignent de l'espérance, du pardon et de l'amour de Dieu dans leur réalité et ce qu'ils nous inspirent. Je crois que c'est des questions qu'on peut se poser chacun pour nous-mêmes. La solitude n'a pas sa place dans nos églises. Et il y a une extraordinaire complémentarité. Toutes les situations que l'on peut rencontrer en tant que famille peuvent se retrouver apaisées lorsque l'on passe du temps les uns avec les autres, qu'on apprend à se connaître. Et quelque chose qui me fait du bien, c'est que la foi chrétienne, elle a des vraies réponses à apporter à des vrais problèmes. L'Église est une bonne nouvelle pour les familles, pour transmettre la foi, pour élever nos enfants dans l'amour de Dieu, pour avoir des personnes extérieures sur qui compter, pour avoir parfois du relais, pour avoir des conseils, des modèles multiples qui peuvent nous inspirer dans l'éducation que nous leur donnons et dans la vie de foi. Mais l'Église, c'est aussi une bonne nouvelle pour les personnes qui n'ont pas de famille, que ce soit de manière ponctuelle ou de manière durable. Vous avez un chez-vous dans l'Église, un réseau de soutien, un réseau de solidarité sur lequel vous pouvez compter. Comme dans toutes les familles, il y a aussi des déceptions à surmonter, des erreurs à pardonner et avec lesquelles il faut cheminer. Mais c'est une grâce de pouvoir compter sur notre Père à tous et à toutes qui nous lie en une seule famille. En une seule famille qui, par la grâce de Dieu, peut être une bénédiction pour les nations. Que le Seigneur nous aide à être des communautés qui annoncent son règne de manière pertinente pour cette société. Que le Seigneur nous aide à nous entourer les uns les autres avec les familles imparfaites que nous formons. La famille est la base voulue de Dieu dès la création, mais en Christ, elle devient lieu d'accueil et de partage. Amen.